Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez bénis aujourd'hui encore. Et on va démarrer ces jours-ci une nouvelle série avec la première épître de Jean. Cette épître de Jean faisait partie probablement d'un seul paquet qui était livré avec deux autres épîtres. Eh bien, 1, 2 et 3 Jean, la partie principale, c'est 1 Jean. La partie de 2 Jean, c'est l'épître qui est un petit mot qui est adressé à la congrégation, à l'assemblée. Et puis, 3 Jean, c'est un mot qui est adressé aux responsables. La première épître de Jean n'est pas signée. Pour une lettre, c'est particulier. Mais les suivantes le sont avec ce terme « l'ancien ». Alors, ça suggère vraiment que l'auteur est avancé en âge. Il a une certaine autorité, certes probablement incontestable, puisque il ne juge pas même utile de s'identifier. Et on lit dans cette épître, au verset 1, qu'il est certainement qu'il est un des apôtres du Seigneur, puisqu'il était avec lui. Je lis 1 Jean chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 17. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « j'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui, en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'ici donc, la parole de Dieu. Seul Jean, l'apôtre qui a vécu le plus longtemps parmi les douze, pouvait jouir de cette autorité et d'écrire cette épître. C'est une lettre qui a été écrite à la fin du 1er siècle, alors que le christianisme avait connu, était déjà connu depuis une génération, qu'il a connu aussi des persécutions. Et à présent, il y a de prétendus faux enseignants qui viennent troubler l'Église, qui influencent l'Église. Jean les appelle au chapitre 4, verset 1, les faux prophètes. Au chapitre 2, verset 26, il dit qu'ils égarent les croyants. Il les appelle aussi au chapitre 2, verset 18, des antéchrists, qui nient la divinité de Christ, verset 22, dans son incarnation, au chapitre 4, verset 2. Et Jean, donc, écrit pour réfuter leurs graves erreurs et pour rassurer les croyants. Le but de la lettre, on le voit au verset 3 du chapitre 1, il dit « afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous ». Et donc ça, c'est le but. Il cherche à écrire pour que chacun sache s'il est en communion avec Dieu. Et au verset 4, il dit qu'il n'y a rien qui puisse le réjouir davantage que d'être en communion avec Dieu et en communion avec ses frères. La question qui est sous-entendue pour nous, c'est est-ce que nous sommes en communion avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec les autres croyants? Et l'objet de cette épître, c'est de nous tester là-dessus. Dans ces derniers temps, vous avez certainement peut-être senti un peu de fièvre, ou le nez qui coule, ou une fatigue, ou des courbatures, un peu mal à la tête. Peut-être vous vous êtes dit, mais est-ce que j'ai le coronavirus? Eh bien, pour le savoir, faites-vous tester. Dans le domaine spirituel, c'est un peu la même chose. Vous croyez peut-être à l'existence d'un Dieu, que Jésus est certainement le meilleur homme qui ait vécu et que c'est mieux d'aimer les hommes que de les haïr, qu'il y a certainement une vie éternelle. Mais au final, où en êtes-vous? Êtes-vous véritablement chrétien? Êtes-vous pardonné, sauvé? Franchement, ces questions sont de la plus haute importance. Si vous ne faites pas le bon diagnostic, vous perdrez votre âme. Si vous ne réussissez pas le test, vous perdrez votre âme. Et donc, Jean écrit pour que chacun de nous puisse se tester. Et donc, il nous propose trois tests que l'on va voir ce matin. Le test de l'attitude envers le péché. On verra ensuite le test de l'obéissance. Et puis enfin, le test de l'éternité. Regardons le test de l'attitude envers le péché. Dans les chapitres 1, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Il commence en disant, « La nouvelle que nous vous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Quand il affirme que Dieu est lumière, c'est qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Jésus est la vérité, Dieu est vérité, il n'y a pas de mensonge en lui. Mais c'est aussi cette notion qu'il est sainteté, pureté, exempt de tout mal. Il n'y a rien en lui qui soit erreur, mensonge ou péché. Ainsi, comme les ténèbres ne peuvent subsister en présence de la lumière, eh bien le péché ne peut subsister en présence d'un Dieu saint. Si nous voulons vivre en communion avec Dieu, nous devons renoncer au péché et au mensonge. Et Jean dénonce ici trois fausses conceptions à l'égard du péché, qui étaient probablement répandues par ces faux prophètes. Elles sont introduites ici par « si nous disons », verset 6, verset 8 et verset 10. « Si nous disons ». Le premier verset 6 dit « si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons ». Certains pourraient dire, disaient, semble-t-il, à cette époque, « je pêche et je suis en communion avec Dieu ». Je marche dans les ténèbres, mais je suis quand même en communion avec Dieu. Les faux enseignants de l'époque, eh bien, disait que ce qui est physique est sans valeur. C'est seulement ce qui émane du cœur, de l'esprit, qui a une vraie valeur. C'est une pensée qui revient en force, je trouve, de nos jours. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu cela, que des gens ont une relation extra-conjugale, et puis ils justifient leur attitude en disant « Ah, c'était purement physique !» Ça n'a pas de valeur. Tu n'as pas besoin de te sentir trahi. Il n'y avait pas de sentiment. Je t'aime. Non. Non, tu ne m'aimes pas. Il dit ici, nous mentons. Si nous disons cela, nous mentons. On ne peut pas dissocier ce qui est de notre cœur et ce qui conduit notre manière de vivre. Verset 8, il dit une autre fausse conception. Carrément, je n'ai pas de péché. Hein. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, pas de nature pécheresse, et ça aussi c'est un discours qui est également répandu de nos jours. Si je commets des choses mauvaises, ah, ce n'est pas du fait de ma nature, je ne suis pas un pécheur, mais c'est simplement des pulsions, c'est mon environnement qui m'a corrompu, c'est cette pression sociale, peut-être c'est un besoin physique, mais pas de péché. Il dit ici, si nous disons cela, nous nous trompons nous-mêmes. Si le péché n'existe pas, la mort de Christ est inutile. Au verset 10, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché ». Ici, il y a une petite nuance. La personne dit « Je ne pêche pas ». Oh, j'ai une nature pécheresse et effectivement, je crois que le péché corrompt notre communion avec Dieu. Mais moi, c'en est fini avec le péché. Terminé. Je suis délivré totalement de la puissance du péché. Prétendre que nous n'avons pas de péché n'est pas simplement un mensonge délibéré, mais c'est accuser Dieu de mentir, il dit ici, puisque sa parole déclare à plusieurs reprises que le péché est universel. On a lu ces derniers temps à étudier l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit au chapitre 7, verset 20, « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Aucun. » Alors Jean développe à présent la réalité à l'égard, ou la bonne attitude à l'égard du péché, dans les versets 7 et 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'attitude juste du chrétien à l'égard du péché n'est pas de le nier, mais au contraire de le reconnaître et de recevoir le pardon divin. Pardon rendu possible parce que la pénalité du péché a été payée par Jésus-Christ. Ce pardon et cette purification sont liés à la confession de nos péchés, au verset 9. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître d'une manière globale, générale, oui, bon, je suis un pécheur. Non, mais d'être précis, de dénoncer ce qui ne va pas dans nos vies et de les abandonner. Dans le Proverbe 28, verset 13, Dieu dit « Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et puis, ensuite, il résume un peu sa pensée dans les versets 1 et 2 du chapitre 2. Il y a une tension ici dans ce passage. Il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. » C'est comme s'il dit ici, on ne peut pas ni minimiser le péché, et on ne peut pas non plus désespérer à cause du péché au point de vouloir le cacher. La croix nous garde ces deux extrémités. On ne peut pas minimiser le péché mais parce que Jésus-Christ a souffert la croix pour que nous soyons pardonnés. Le but de l'épître de Jean, il dit ici, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Le péché est tellement grave qu'il a fallu la mort de Christ pour le régler. Mais nous ne pouvons pas non plus désespérer à cause du péché, parce que Jésus-Christ a souffert précisément la croix pour nous. Nous n'avons pas à le cacher, mais à le reconnaître. Son sacrifice a satisfait parfaitement la justice de Dieu. La preuve, c'est qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il est maintenant notre avocat. Notre avocat ne plaide pas notre innocence. Notre avocat n'avance pas de circonstances atténuantes en notre faveur. Notre avocat reconnaît notre culpabilité, mais il présente sa mort substitutive pour notre acquittement. Jean déclare que les péchés concrets sont possibles et même inévitables pour le chrétien. Mais il s'oppose à l'idée d'une complaisance dans le péché. Il dénonce sévèrement la pratique du péché. On verra ça dans les chapitres 3, versets 6, 8, 9 et 5, verset 18. Donc, si vous vivez dans le péché et que vous dites être en communion avec Dieu, vous manquez le test. Dieu est lumière. Si par contre, vous avez péché et que vous confessez vos péchés, l'abandonnez, vous trouverez un plein pardon en Jésus-Christ. C'est cela, vivre en communion. C'est cela, marcher dans la lumière. Et si vous vivez la vie chrétienne sans jamais demander pardon, ni à Dieu, ni à ceux que vous avez offensés, vous manquez le test également. Le véritable évangile, il nous pousse à confesser et à abandonner le péché et l'injustice. Le deuxième test qui nous est proposé, c'est le test de l'obéissance dans les versets 3 à 11 du chapitre 2. Comment pouvons-nous être certains que nous appartenons à Jésus-Christ? Jean nous donne deux indices ici. Il dit si nous faisons ce qu'il nous dit, et puis si nous vivons comme il nous le demande. Regardez verset 3. Nous savons par cela. Verset 5. Par cela, nous savons. Dieu veut que nous sachions. Dieu veut qu'on ait une assurance. Et il ne dit pas nous espérons, nous pensons ou nous aimerions, mais il nous donne une certitude. Nous savons. Nous savons quoi? Verset 3. Que nous l'avons connu. Verset 5. Que nous sommes en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Que nous sommes sauvés. Que nous sommes pardonnés. Comment? Si nous gardons ses commandements, verset 3, si nous gardons sa parole, verset 5, ce n'est pas mon obéissance qui me sauve, mais c'est celle de Jésus-Christ. Mais parce que je suis sauvé par l'obéissance de Jésus-Christ, j'obéis. Si je n'obéis pas, je manque le test. Nous pouvons savoir que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. On ne peut pas distinguer l'amour pour Dieu de l'amour pour ses commandements. Si je dis « aimer mon épouse », mais que je ne fais pas ce qu'elle aime, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qu'elle souhaite, je suis un menteur. Il s'agit de tenir la volonté de Dieu pour quelque chose. De vouloir façonner sa vie avec l'obéissance de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Verset 5, il réaffirme le même principe, cette fois-ci positivement. L'amour que nous avons pour Dieu se manifeste dans notre obéissance. Et c'est la preuve que nous sommes en lui. Et en lui, on retrouve cela au verset 6 encore. C'est une expression qu'aime l'apôtre Jean. Il en a parlé en Jean 15. Vous vous souvenez de Jésus qui est le cep. Nous sommes les sarments, que nous sommes en lui. Nous allons porter du fruit de la même vie de Jésus. Si nous sommes en lui, nous allons porter des fruits qui sont conformes à sa nature. Le deuxième indice, c'est qu'on trouve au verset 7 à 11, si nous vivons comme il nous le demande. J'appelle ça aussi le test de l'amour. Il développe ce qu'est garder ses commandements dans les versets suivants, et il en fait un résumé que je voudrais vous lire dans le chapitre 3, le verset 23. Il est dit ici, c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Il vient de dire que le véritable chrétien a choisi de garder dans son cœur les commandements de Dieu. Il suit son maître, il soumet sa volonté à celle de Dieu. Jean ne révèle pas explicitement la nature du commandement ancien et puis nouveau. Mais puisque le sujet du verset 9 à 11, c'est l'amour, et que le commandement nouveau donné par Jésus, c'est le commandement de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, nous devons marcher comme Christ lui-même a marché dans l'amour fraternel. L'amour de Jésus-Christ s'est manifesté envers des gens qui n'étaient pas aimables. L'amour chrétien n'est pas premièrement un sentiment. L'amour chrétien est un choix, c'est un commandement. Et c'est pour ça qu'il est dans cette partie du test de l'obéissance. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que les gens qui vous ressemblent, même couleur ou même âge, que vous ne vous intéressez qu'à ceux qui vous apportent quelque chose, ça ne prouve pas que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, parce que tous les hommes font cela. Ce qui prouve que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, c'est l'amour que vous manifestez pour vos frères, pour ceux vers lesquels vous n'êtes pas attirés naturellement. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur que vous n'aimez pas? Que vous haïssez? Vous manquez le test. Regardez, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous n'aimez pas Dieu si vous n'aimez pas vos frères. Chapitre 4, verset 20, il dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Obéir au commandement de Dieu, c'est donc aimer ses frères. Et aimer ses frères, c'est aussi obéir au commandement de Dieu. Vous aimez vos frères en vous éloignant du péché et du monde, en obéissant à la parole de Dieu. On ne vit pas pour nous-mêmes seulement. Mon péché nuit à l'Église, à mes frères. C'est flagrant avec le manque de reconnaissance, de joie, ou avec l'amertume, la médisance et la jalousie. Ça infecte toujours les autres. Est-ce qu'on voudrait passer le virus à nos frères? Mon mauvais exemple influence les autres, mes proches en particulier. Je manque le test de l'obéissance et de l'amour. Le dernier test, le troisième test qui nous est donné, c'est le test de l'éternité. Après avoir évoqué les deux premiers tests par lesquels les faux enseignants seront démasqués, il s'empresse de rassurer les croyants dans les versets 12 à 14. Il dit à six reprises, « Je vous écris dans les versets 12 à 14 à six reprises, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement, parce que vous avez vaincu le mal. » Il emploie trois expressions pour s'adresser à eux. Il dit « petits-enfants, pères et puis jeunes gens ». Mais la première, « petits-enfants », est une expression générale qui regroupe tous les lecteurs. « Petits-enfants », c'est « vous tous croyants ». Cette épître, elle est très, très affectueuse. Jean est âgé, il veut prendre soin de l'Église et il les appelle petits-enfants. On a déjà vu cela au chapitre 2, verset 1, petits-enfants. Au chapitre 2, verset 18, on verra cela encore, et au verset 28 encore. Et tout au long de l'épître, on voit qu'il appelle les croyants petits-enfants. Et il leur dit, vous êtes pardonnés à cause de son nom. Vous avez connu Dieu, le Père. Vous êtes son peuple. Et puis ensuite, il distingue deux groupes, les jeunes et les pères. Et là, on dirait qu'il parle des jeunes et des moins jeunes. Les pères, vous connaissez celui qui est dès le commencement, Jésus. Ça fait référence au verset 1, ceux qui étaient dès le commencement. Et puis, jeune Jean, verset 14, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il est en train de dire, malgré votre jeune âge, vous êtes capable de distinguer l'erreur de la vérité. Parce que la parole demeure dans votre cœur, vous pouvez faire la différence et rejeter le mensonge. Et donc, il les a rassurés, il les félicite même. Et puis, maintenant, dans les versets 15 à 17, il les encourage dans leur marche. Et il leur dit, n'aimez pas le monde. Grosso modo, n'aimez pas le monde parce que ce monde va disparaître. En nous ordonnant de ne pas aimer le monde, il montre aussi que nous sommes naturellement portés à cela. Et qu'il nous faut résister à l'attrait de ce monde. En fait, c'est quoi le monde ici ? Qu'est-ce qui définit la valeur d'une personne du monde ? C'est ce qu'elle a. Elle a un bon job. Elle a un bon salaire. Elle a une bonne allure, belle silhouette. Elle a une bonne notoriété, bien en vue dans le monde. Elle a de belles possessions. Et au fond, tout l'orgueil qu'elle retire de la vie vient de ces choses-là. Et j'en dis ici, tout cela, c'est le monde. Ce n'est pas Dieu qui le donne. Et tout cela va passer. Et nous sommes tentés, nous, de vouloir posséder tout cela. Mais Jean nous rappelle, cette convoitise va passer. Le troisième test, donc, qu'il nous propose, qu'il nous soumet, c'est celui de l'éternité. De vivre pour les choses qui durent. Les choses qui ont une vraie valeur devant Dieu. Celles qui doivent être poursuivies, celles qui nous identifient en tant que chrétiens. Puisque nous sommes pardonnés, puisque nous avons connu Dieu, puisque nous connaissons la vérité, puisque nous lui appartenons, puisque nous vivrons éternellement dans sa présence, n'aimons pas le monde, mais sa présence, sa volonté. Si nous marchons dans la lumière, alors ce sont les choses éternelles qui nous importent. Don Carson a écrit dans une de ses méditations, « Les chrétiens sont invités à évaluer toute chose à la lumière de l'éternité. Malheur à celui qui fait reposer son identité personnelle et son espérance sur les choses passagères. Dans des milliards d'années, la voiture que vous conduisez aujourd'hui, le montant de votre compte en banque, le poste que vous occupez, les honneurs que vous avez reçus, tout cela paraîtra dérisoire. Et l'orgueil que vous aurez affiché dans ces choses vous paraîtra une énorme folie. Que vous ayez obtenu ou non une récompense universitaire ou professionnelle sera infiniment moins important que la fidélité que vous aurez témoignée envers votre conjoint. Que vous ayez été un sportif de haut niveau, de renom, comptera infiniment moins que la générosité dont vous aurez fait preuve. Car le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous poursuivez? Les choses, les honneurs, le confort et la gloire qu'offre ce monde? Vous manquez le test. Nous avons tous déjà passé des tests que nous avons échoué, auxquels nous avons échoué. Personne n'aime ça. Et pourtant, c'est un moment crucial. Parce que on sait où on en est. Si vous êtes positif au coronavirus, vous pouvez maintenant vous soigner. Si vous êtes positif aux tests que l'on vient d'évoquer, ces trois tests, l'attitude envers le péché, l'attitude envers nos frères, l'amour de nos frères, l'obéissance à sa parole, et puis l'éternité, vous pouvez venir à Jésus-Christ, lui demander pardon et recevoir son pardon parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Hier, comme Samuel le disait, c'était l'anniversaire de la réforme. 31 octobre 1517, Martin Luther placardait ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne. Cette date a marqué le début de la réforme. Et Joël Favre rappelait dans un article cette semaine au sujet de la réforme ce que disait la première thèse de Martin Luther. Voici cette première thèse. Notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ, a voulu que la vie entière des croyants soit une vie de repentance. Ce que Dieu a voulu, c'est que la vie entière des croyants soit une vie de repentance. La marche dans la lumière, ce n'est pas une marche exempte de tout péché. C'est une marche qui cherche à vivre dans la lumière, dans la sainteté. Et quand elle tombe, elle reconnaît, confesse, se repent, change et place toute sa confiance dans Jésus-Christ. Tout cela, c'est ce qui nous permet de progresser avec Dieu, d'avancer. Et c'est pourquoi le péché ne devrait jamais être caché au sein de l'Église. On devrait toujours avoir la liberté de confesser nos péchés, de les abandonner, de les reconnaître. Christ seul nous pardonne, Christ seul nous justifie, parce qu'il nous aime, parce qu'il a livré sa vie en sacrifice pour nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous aide à venir jour après jour à la repentance. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette épître. Elle nous aide à nous tester, Seigneur, pour savoir où est-ce que l'on en est. Seigneur, on doit reconnaître que on a tellement de mal à confesser nos péchés, à reconnaître notre état de pécheur. Tellement de mal à obéir à ta parole. Tellement de mal à aimer nos frères. Tellement de mal à rejeter le monde. Et Seigneur, on a vraiment besoin de toi. De venir dans ta lumière, de nous laisser éclairer par ta sainteté, que tu dévoiles nos fautes, afin que l'on puisse en être guéri. Seigneur, merci de ce que tu places parfois nos frères, nos conjoints, à nos côtés pour dévoiler nos fautes. Et Seigneur, on prie pour que on ait toute la grâce, toute la sagesse, désir de te plaire, pour les reconnaître, les confesser, les abandonner et nous saisir de ton pardon. Merci Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.